pour qu'on voit, enfin qu'il n'y ait pas de malentendu entre nous sur la discussion, je pense qu'effectivement, l'intérêt de ces deux témoignages et leur articulation avec le fil de ce qu'on fait dans nos 4 jours de formation, c'est pas effectivement le message publicitaire pour telle ou telle chapelle pédagogique ou groupe pédagogique ou posture, parce que évidemment nous connaissons tous des choses, des groupes, des mouvements qui ont nourri nos parcours, qui ont suscité des rencontres. Ce qu'on essaye de scénariser là et de donner comme objet, comme matière à discussion, c'est qu'est-ce qui peut susciter des mobilisations collectives qui fassent que, je vais le dire simplement, qu'on ait l'impression qu'on peut quelque chose à ce qui nous arrive et qu'on n'est pas condamné à ne faire que reproduire les insatisfactions de l'existant. Hein, j'essaie de le dire sans mots compliqués. Mais voilà, c'est sur ces choses-là que nous sommes invités à réagir. Et effectivement, c'est ça qui est dans les témoignages des deux collègues et qu'on met en réseau, hein, là aussi. En quoi il y a des choses qui peuvent nous servir pour faire ce qui est le troisième temps que nous avons à faire. Ça veut dire, est-ce qu'on pourrait imaginer des règles d'action ou des priorités de travail des uns ou des autres là où nous sommes dans nos métiers pour dire, ben, si on veut susciter ça, alors il vaut mieux essayer d'investir là-dedans et de cibler des priorités dans notre travail pour essayer d'être efficace.
Je voulais juste apporter une réflexion. Ce qui ressort quand même de ton intervention, c'est, enfin moi, ce qui m'apparaît très fort, cette notion de construction de collectif. Et à la fois de vouloir enrôler les nouveaux arrivants, c'est-à-dire que de se dire ce collectif co-construit est très important, ce collectif d'équipe. Et donc la question que moi j'ai trouvée intéressante, c'est de se dire, bah, quand des nouveaux arrivent, comment on va faire pour les enrôler avec nous et pour que ce collectif continue d'exister, voire s'élargir à d'autres établissements. Donc c'est cette histoire aussi de vouloir créer un genre, hein, qu'on retrouve chez Clos entre autres. Et puis aussi la notion, bah, du coup, du collectif empêché, c'est-à-dire que ton rapport à l'institution est intéressant, enfin empêché en partie, ou du moins pas facilité forcément d'après votre vision d'enseignant. Enfin, moi c'est comme ça que je l'interprète. Voilà, moi c'est un petit peu les choses. Alors effectivement, si on pourrait trouver, enfin, pour moi, c'est cette volonté de vouloir effectivement favoriser ce collectif qui s'auto-construit par lui-même, qui réfléchit par lui-même, qui voire même demande des formations par lui-même. Enfin, bon, qu'on retrouve aussi dans la même problématique dans le domaine social. Et de collectif effectivement aussi parfois empêché, voire même parfois même instrumentalisé. Moi, je parle pour mon métier de travers social. Et là, pas cette fois pas par l'administration, par l'institution, mais par les cadres. Hein. Donc cette peur de vouloir un peu perdre le contrôle de ce qui peut se passer. Voilà. Alors, moi, j'ai fait des parallèles, excuse-moi, avec ce qui fait écho avec mon métier.
Oui, sur les ressources pédagogiques, je pense que les enseignants ne sont pas suffisamment aidés dans leur travail de documentation et de recherche, mais qu'ils ont une part de responsabilité importante. Il manque beaucoup de curiosité. Toutes les études, effectivement, qui ont été faites sur leur lecture montrent que c'est relativement restreint, hein, surtout en termes professionnels. Alors, c'est évident que c'est dès la formation initiale, hein, en UFM, dans les futures écoles, hein, qu'on devrait présenter les différents mouvements pédagogiques et même, ce qui sera encore plus intéressant, faire témoigner différents enseignants, hein, qui ont appliqué leur méthode effectivement dans leurs enseignements. Il y a un autre point moi qui me frappe beaucoup, hein, c'est la pauvreté dans la plupart des CDI de collège et même de lycée, des publications à destination des enseignants. Même quand c'est assez bien pourvu et bien fait pour les élèves, hein, c'est beaucoup plus faible, hein, en ce qui concerne les adultes en général, les enseignants en particulier. On ne trouve pas effectivement les revues les plus courantes. Hein, bon, et même on peut généraliser, je veux dire, quelle proportion d'enseignants en éducation prioritaire connaît l'existence même du centre Alain Savary, de la revue XYZ, malgré la montée en charge du, et en puissance du site, effectivement. Donc il y a vraiment un problème d'accès à l'information, d'aide à l'accès aux ressources, qui ne peut pas être réglé individuellement, ou même en petite équipe. C'est très bien d'avoir eu cette réaction, mais je pense qu'il faut vraiment aussi que l'institution facilite l'accès à toutes ces ressources.
Alors je ne sais pas si on est en train de partir sur autre chose, alors tu nous arrêtes si ça va pas, mais cette question elle m'intéresse beaucoup, c'est pourquoi les enseignants ne veulent pas entendre parler de stages, ne veulent pas entendre parler de formateurs qui viennent ou qui disent non la dernière fois il est venu c'était nul, et pourquoi ils ne lisent pas de revues, etc. Est-ce que puisqu'on a parlé du domaine du travail, est-ce que c'est valable dans les autres métiers? Est-ce que dans les autres métiers, on va dire intellectuels comme ça, une fois qu'ils ont leur formation initiale, les gens cessent de s'y intéresser globalement à 90%? Ou est-ce que vraiment les enseignants, c'est, on va dire, les mauvais élèves qui ne s'intéressent pas à avoir une culture de leur propre métier?
Là où je vais suivre ce que Didier Bargas disait, si hier c'était, ou avant-hier, c'est plus, c'était l'idée de dire il y a peu de métiers qui acceptent d'être maltraités comme le sont les enseignants. Et quelque part, c'est vrai que on est dans un système qui fait que... moi, j'ai des mots pour parler de ça. C'est en quoi la formation, elle travaille à partir de trois types de références. C'est-à-dire, quand est-ce que la formation, elle observe le travail réel? Quand est-ce que la formation, elle essaye de conserver les gestes robustes du travail réel? Et quand est-ce qu'elle essaye d'être du côté du laboratoire de l'innovation, du nouveau, etc. Donc, c'est... ces termes de observatoire, conservatoire, laboratoire, Simon les a présentés aussi un petit peu ce matin. Et du coup, c'est une question qui, à mon avis, est une question absolument trop aveugle dans notre système. C'est comment l'institution s'organise pour que l'histoire du métier, elle se passe de génération en génération. Et comment est-ce qu'on s'organise pour que les formateurs d'enseignants accèdent à une professionnalité continuée, j'allais dire. Je connais peu d'académies, et c'est pas faire le procès de telle ou telle structure ou telle personne qui arrive à se préoccuper de la formation de leurs formateurs et de leurs cadres. Et on est beaucoup, et Bargas l'a dit hier avec les logiques de projet, on est beaucoup dans de la parole institutionnelle descendante qui est, et parfois les mouvements pédagogiques eux-mêmes contribuent à faire cette norme prescriptive sur voilà ce qu'il faudrait faire à la place de ce qui se fait réellement. Et très clairement, Simon disait ce matin sans en parler qu'on travaille avec d'autres métiers et on est en train de collaborer à de la production de ressources type Néopass pour EDF. Eh bien, pour vous dire, lorsque nous travaillons avec EDF ou lorsque nous travaillons avec Veolia sur « mais comment ça se passe, la question de la formation chez vous ?», eh bien, on voit à la fois des modèles extrêmement professionnalisés, structurés de formation de formateurs, même si ces entités-là et ces structures-là n'échappent pas à un certain nombre de difficultés, de dilemmes, etc. Donc, moi, loin de moi l'idée de dire que chez EDF ou ailleurs, les choses seraient réglées. Mais en tout cas, la question de la formation, elle est organisée parce que il vaut mieux que les centrales nucléaires ne pètent pas. Donc, c'est quand même un peu organisé, même de manière quasiment militaire. Donc, c'est sûr que ces choses-là sont prises au sérieux avec des process, des organisations, etc., etc. Donc, je veux juste arrêter là-dessus, mais pour moi, aujourd'hui, dans la refondation de l'école, je pense que la question de la formation des formateurs, non pas comme étant des gens qui seraient capables d'aller inculquer aux masses ce qu'elles n'auraient pas encore compris, mais comme personnes capables d'accompagner des changements liés aux changements de professionnalité, je vous renvoie à l'article de Savoie que je citais dans le rapport de recherche, c'est-à-dire que il y a une transformation profonde du métier d'enseignement dans les 50 dernières années. Il faut le mesurer à sa juste valeur pour comprendre pourquoi les profs n'y arrivent pas. C'est-à-dire que peut-être avez-vous entendu des discours politiques récents pour dire la preuve qu'il faut faire sauter tous ces fumiers de profs, c'est qu'il y a des élèves qui sortent sans être employables par l'économie. Aujourd'hui, on voudrait que les profs soient capables de régler l'ensemble des problèmes de la société. Et c'est bien à cette double injonction, hein, de dire comment est-ce que vous faites pour continuer à être un élément reproducteur des inégalités sociales, tout en même temps en étant ceux à qui devrait incomber la responsabilité de donner à tous et à chacun une chance. Donc, c'est pas des petites questions, hein. C'est pas des questions qu'on va régler chacun dans notre coin. Sur la question de la, du langage professionnel, Rouault a dit un truc tout à l'heure quand il parlait de code restreint. Hein, c'est-à-dire quand ça fait référence à Bernstein qui parle de code restreint et de code élaboré pour parler des choses. Pour parler des choses, on a besoin de langage élaboré. Pour parler de physique, on a besoin de langage de physique. Pour parler de maths, on a besoin de langage de maths. Pour parler métier d'enseignant, on a besoin de langage professionnel du métier d'enseignant. Ça, c'est très mal vu dans nos établissements. C'est-à-dire que, tout à l'heure, quand il a insisté en disant, ben voilà, moi je donne le modèle théorique de l'activité de l'enseignant selon Bucheton, est-ce que les enseignants vont me jeter des pierres en disant, tu nous saoules avec tes théories, ou est-ce qu'ils vont s'emparer de ces théories pour en faire quelque chose? Eh bien, à leur façon, les deux histoires qu'ils racontent, pour moi, c'est la même histoire. C'est comment, à un moment donné, des individus qui cherchent des solutions, parce que tout le monde cherche des solutions pour mieux faire son travail, sinon il meurt, sont des gens qui arrivent à trouver des solutions à partir du moment où ils rencontrent des théories, des discours, de la culture. Et dans leur façon, que ce soit Bucheton ou le GFEN, moi, c'est pas tellement mon problème. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, et moi je le dis avec mes mots, t'es pas obligé d'être d'accord, mais ce que tu rencontres, Ludovic, c'est une théorisation sur ces bons sens d'histoire de rapport au savoir qui vont faire que dans les situations que tu vis en formation et dans les discours qui sont construits autour de ça, tu trouves un espèce de « mais bon sang, mais c'est bien sûr », il y avait des choses que je ressentais en moi de manière relativement intuitive et il y a des gens qui l'ont écrit et pensé. Ça s'appelle juste la culture. C'est l'histoire de l'humanité qui fait que ça fait un moment que ça dure que... La culture, c'est juste « mais bon sang, mais c'est bien sûr, je ne suis pas seul ». Et c'est ça qui fait qu'un gamin de 10 ans, à un moment donné, dit « ah mais maître, ce que veut dire l'auteur, là, c'est un truc, ça nous parle de l'amour entre son père et sa fille. Ah mais c'est ça que ça nous raconte dans les livres, et ça me parle aussi de moi ». Et ça, le fait qu'on puisse parler métier de manière professionnelle avec des mots et qu'on n'en reste pas au code restreint, mais qu'on monte dans le code élaboré, et qu'on dise, ben voilà, ça c'est un geste professionnel, ça c'est une posture, ça c'est une éthique, ça c'est un contenu de savoir, ça c'est... Eh bien ça, je ne sais pas pourquoi dans notre histoire c'est compliqué à gérer, mais ça a sûrement à voir avec quelque chose qu'il a dit tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que chez les enseignants du premier et du second degré, être enseignant, ce n'est pas la même chose. Et ce n'est pas pour rien si on parle de lycée professionnel, la dignité professionnelle des uns et des autres, les écarts sociaux qu'il y a entre les uns et les autres, tout ça, ça pèse assez fort sur nos institutions et ça les empêche d'avancer.
Juste un petit complément, je suis assez d'accord avec toi sur cette histoire de j'ai rencontré une culture, mais je pense qu'il faut rajouter que j'ai rencontré une culture avec des modalités qui m'ont permis de me l'approprier, et là en l'occurrence c'était un stage de formation que j'ai fait avec des modalités de formation qui ne sont pas à mon avis du tout anecdotiques. C'est-à-dire que c'est en vivant une situation sur l'accord du participe passé ou en vivant une situation sur un truc d'histoire dans laquelle moi, je me pensais que la grammaire et moi, ça faisait deux pour l'éternité, que j'ai compris des trucs que je n'aurais pas été capable de comprendre sur ma discipline ou que je n'avais pas compris en faisant de la didactique de la physique. Voilà. Donc, ok, mais c'est pas juste parce que j'aurais lu des trucs du GFE dans un CDI que ça serait déclenché. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une médiation qui doit être de qualité et c'est pas... C'est important.
Oui, bah, je vais juste renchérir là-dessus, là, ce que je voulais ajouter à ce que tu disais, Patrick, avec ce sur quoi je suis vraiment complètement d'accord. Hein, mais c'est là où il y a la posture du formateur. Et pour qu'il y ait une posture de formateur, il faut qu'il ait été formé, comme tu l'as dit. Moi, j'ai eu une chance hein, quand même dans ma vie, parce que finalement, c'est quoi le modèle de recrutement des formateurs dans le second degré? C'est en général un IA IPR qui vient dans une classe et qui dit... Vous, c'est bien ce que vous faites dans votre classe, vous allez être formateur. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et au même moment, j'avais dans mon casier l'ouverture d'un master de formation. Je me suis dit, mais bon sang, il faut peut-être être formé pour faire ce truc. Voilà. Et puis la deuxième chance, c'est d'avoir eu une formation de formateur qui, elle, émanait de l'Académie de Versailles. Comme tu dis, ça n'existe pas dans toutes les académies. Et sur 2 ans, avoir été formé en tant que formateur avec des gens qui avaient, je veux dire, une autre culture que les profs que j'ai eus dans le master, je veux dire, ça a enrichi et ça a permis, je dirais, de travailler cette posture face aux enseignants. C'est-à-dire cette question-là du code restreint ou du code élaboré. Et, je veux dire, elle est vraiment prégnante. Et comment on passe de l'un à l'autre? C'est-à-dire que là, il y a vraiment un jeu de posture, voilà, que j'utilise actuellement en tant que formateur.
Quand les formateurs sont capables, parce qu'ils ont l'épaisseur, de passer entre ces codes théoriques qu'ils manipulent eux et les codes professionnels, et qui sont en capacité d'aller accompagner les collègues sur leurs projets, etc. On voit bien l'efficacité, la dynamique que ça. Et c'est, encore une fois, je redis ça de manière explicite, ça va sans dire, pour pas que ça reste sous le tapis, hein, en disant que, surtout, notre idée n'est pas de dire que telle ou telle référence pédagogique, structure, etc., aurait par nature des vocations à être plus efficace. On a chacun nos croyances là-dessus, bien évidemment, mais ça en fait pas des savoirs.
Oui, si je peux me permettre, je voudrais juste rajouter un truc qui m'a échappé. C'est pour répondre à Stéphane tout à l'heure, qui disait, mais qu'est-ce qui a changé dans le rapport aux élèves là? Ok, ils ne réussissent pas mieux, mais... et j'avais l'impression de, quand je voulais expliciter pourquoi j'ai l'impression d'arriver à tenir un fil qui est plus solide qu'avant, parce que j'ai l'impression, et c'est tout nouveau, là, ça fait 1 an ou 2, d'avoir dans ma classe, de manière permanente, un débat, un combat idéologique avec les élèves, à cause de comment je fais la classe, et on discute avec les élèves de. Enfin, les élèves m'interpellent sur c'est quoi la finalité de l'école, comment est-ce qu'on fait pour apprendre, c'est quoi le modèle d'apprentissage qui est intéressant? Vous nous retournez la tête tout le temps, vous répondez pas à nos questions, vous faites chercher des problèmes. La prof d'histoire géo, au moins, on a un cours clair, on sait ce qu'il faut apprendre. Et je discute avec eux, il y a des élèves qui disent « Mais la prof d'histoire géo, elle attend la même chose de toi. » C'est des élèves qui disent ça entre eux. La prof d'histoire géo, elle te le dit pas, qu'il faut que tu cherches et que tu comprennes. Monsieur Arnaud, il le dit. Et les élèves débattent de ça. Et quand je dis que j'ai l'impression, enfin d'arriver, c'est-à-dire que j'ai l'impression que et au milieu de la classe, en débat, entre les élèves en recherche, ce qui en général est occulté sur à quoi ça sert ce que vous êtes en train de faire ici. Quoi. Voilà, c'est pour ça que c'est le fait d'avoir vu ça apparaître, c'est ça qui me rend optimiste et enthousiaste.
Alors moi, depuis tout à l'heure, je me dis, bon, je sais pas si je le dis ou pas, puis je vais le dire quand même. Pour avoir été formatrice au centre Michel Delay et pour avoir été en formation à Vaux-en-Velin, je pense sincèrement qu'il n'y a que le GFEN qui pouvait réussir à rentrer et à faire quelque chose au niveau de la formation. Alors j'explique pourquoi. Vaux-en-Velin, c'est un petit peu le cauchemar des formateurs. C'est terrible à dire, hein, moi, voilà, de ma vie, enfin, j'ai quand même fait quelques formations. Je crois que je me suis jamais autant fait ramasser en formation qu'à Vaux-en-Velin. Et cette idée de, enfin, je pense que le fait que ce soit finalement le GFEN, c'est-à-dire finalement des militants qui aient pu rentrer au niveau formatif à Vaux-en-Velin, ben, je pense que c'est pas très étonnant parce que il y a quand même à Vaux-en-Velin des enseignants qui sont hyper militants, effectivement, qui sont des gens qui sont très très convaincus, mais tellement convaincus qu'ils sont que c'est très difficile de dialoguer avec eux et de rentrer en contact avec eux. Et quand en plus on est formateur, on est perçus comme étant des institutionnels. Et ça, c'est terrible. Et du coup, il y a un blocage. Il y a des portes qui se ferment. En tout cas, je peux me tromper, hein, mais en tout cas, en tant que formateur, c'est comme ça qu'on le vit. Je dis on parce que je dis pas je, quoi. Voilà. Bon, voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Tu veux dire que les militants ne seraient pas épargnés par la raideur? Non. Mais Moi j'ai une autre, dans le même genre comme ça, j'ai une autre maxime, c'est organiser une formation, c'est toujours lutter contre la formation précédente. C'est-à-dire qu'on a tous des vécus, et vous les premiers d'ailleurs, quand vous allez partir d'ici, vous allez vous dire « Oh putain, pourquoi je me suis inscrit à ce truc-là » Et du coup, à la prochaine formation que vous allez faire, vous allez vous dire « Ah ben, si c'est pour être la même chose que l'autre jour, c'est pas la peine, merci. » Je blague avec ça, mais c'est très... Voilà, on a tous, et on en discutait encore à midi, parce que vous savez bien que c'est dans uniquement les moments interstitiels où se fait le vrai travail, hein, on n'est pas dupes non plus. On a tous cet exemple, et la collègue qui disait « Ah ben, j'ai une formation à préparer, mais en fait, ma grosse peur, c'est d'être vécu par les collègues envers qui je vais faire cette formation. » Comme moi, j'ai vécu le dernier collègue que j'ai eu en étant formé, où je me suis dit, mais c'est pas vrai, il va se mettre à essayer de répondre aux questions que je me pose ou pas, celui-là. Parce que franchement, c'est bien son truc, mais c'est pas ça la question que je me pose. Et donc, vous savez, c'est la question de, vous avez perdu vos clés, vous les cherchez sous le lampadaire uniquement parce que c'est là qu'il y a de la lumière. Et vous dites, mais il peut y avoir beaucoup de lumière ailleurs. Et donc, cette question-là, elle taraude aussi les formateurs, hein. Et c'est pour ça que moi j'insiste tant sur ces questions de... Et quand on est en formation de formateur, c'est une question fondatrice, centrale, qui est comment on couple l'activité des stagiaires, leurs préoccupations, avec l'activité du formateur. Mais c'est la même chose que dans toute situation d'enseignement. C'est... Il n'y a pas de moyen d'arriver à mes fins de formation sans passer... sans faire le détour par votre propre activité, au sens global de l'activité intellectuelle, hein, de ce qui vous habite, de ce qui vous promène, de ce qui vous préoccupe. Mais c'est un travail de super expert. Et ce n'est pas étonnant que les formateurs y soient parfois comme les enseignants, c'est-à-dire qu'ils se blindent en disant « Bon, bah, de toute façon, avec ceux-là, à Vaux-en-Velin, il n'y a que des communistes, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? On ne peut pas leur faire des trucs, hein ? Ils sont raides !» Mélanger avec des anarchistes en plus. Donc, j'insiste sur ce truc-là parce que on a toujours la capacité à projeter sur les autres ce qu'on n'arrive pas à faire de soi-même. Et c'est pour ça que ce qui est surtout anormal dans l'histoire que tu nous racontes, c'est que quand le prof revient dans la salle des profs en disant « Ah, j'ai fait un truc vachement bien avec mes élèves », on lui répond pas juste en lui lançant des pierres, hein, en lui disant « Toi, t'es pas un vrai prof si tu te plains pas ». Parce que la salle des profs, elle sert aussi à cette espèce de catharsis. Et c'est pour ça que notre problème, c'est que on confond trop la salle de garde et la salle de formation chez nous, quoi. Les médecins, ils essayent de mélanger la salle de garde et la salle de formation, quoi. Mais c'est compliqué à inventer, quoi. D'autres réactions ?
Non, moi, c'était juste une petite réaction sur ta question concernant l'accès aux écrits d'autres professions. Oui, alors dans le domaine du travail social, il y a plusieurs métiers, bien sûr, mais on remarque le métier qui a le plus tendance à puiser dans ses ressources documentaires, c'est les métiers qui ont une forte autonomie de travail. C'est-à-dire, par exemple, les assistantes sociales, en l'occurrence, qui sont tenues par des codes de déontologie, des règles un petit peu qui leur permettent d'avoir une certaine autonomie par rapport à la hiérarchie. Sont sans arrêt plus ou moins en train de se questionner sur l'évolution de leur métier, leur travail, etc. Chez les éducateurs spécialisés, depuis quelques temps, on voit l'invitation à participer au projet d'établissement, donc en fait une certaine démocratisation, entre guillemets, du projet de structure. Traditionnellement, les éducateurs spécialisés s'appuyaient plus sur l'analyse des pratiques pour faire évoluer leur métier, sur leur culture de métier. Donc, il y avait peu l'habitude d'aller puiser dans les recherches ou dans les documentations même des livres plus théoriques. Mais depuis que ça a été démocratisé, là, depuis 2002 à peu près, on voit effectivement des demandes de pouvoir plus s'informer sur la théorie dans les institutions. Mais voilà, c'est cette différence que moi, dans mon métier, je pourrais résumer à plus ou moins d'autonomie par rapport au cadre institutionnel qui est au-dessus, quoi.
Quand les formations, quand le centre Michel Delay propose une formation, il y a un accompagnement, il y a une durée. Et ensuite, globalement, enfin pour le vécu du côté formé que je peux en avoir, ça fonctionne et ça perdure quand vous avez réussi à convaincre suffisamment de collègues de l'équipe pour que cela fasse le relais. Et c'est cette question de relais et de permanence de l'information qui est importante. Moi, j'explique assez régulièrement à mes collègues qui, effectivement, régulièrement me disent « Mais à quoi ça sert qu'on aille en stage ? De toute façon, ils sont au milieu de notre pratique quotidienne, ils vont nous balancer des trucs, de la théorie, des bouquins, des références théoriques, ainsi de suite. Et puis, demain, je serai face à mes élèves et je ne saurai toujours pas plus avancer. Moi, je leur explique quand même que quelque part, il y aura quand même de toute façon un germe parce que tout le monde prendra quelque chose de ce temps de formation. Et ce d'autant que la posture du formateur sera aussi ouverte et disponible que possible, mais qu'après il faudra en faire quelque chose de ce germe, et que si on ne l'arrose pas de temps en temps, il ne poussera pas. Hein, et se pose la question quand même du relais, donc soit par l'accompagnement de l'équipe de formation sur une durée suffisante, soit d'avoir trouvé le relais au sein de l'équipe pour le faire fonctionner et fructifier.
Je voulais me retenir, mais non, ça me taraude. Pratiquement, en fait, pour un IEN par exemple, ça me paraît quand même assez compliqué. Mais ça ne me paraît pas infaisable de mettre en cohérence quelque chose qui à un moment se passe, comme il l'a dit, qui me pose question, une problématique auquel un enseignant est prêt à répondre, enfin à chercher des réponses, déjà à se la poser et à chercher des réponses. Ensuite, que ça soit quand même collectif, puisqu'il y avait quand même l'apport du collectif, puis derrière, trouver des médiateurs, des relais, des personnes, des ressources en fait en tant que formateur. Alors, imaginons un IEN qui a, je ne sais pas, moi, voilà. Alors, imaginons que ce ne soit pas, tout le monde ne soit pas en réseau, ne soit pas en éducation prioritaire. Prenons juste peut-être 16 écoles en éducation prioritaire. Et il faut qu'il arrive à concilier tout ça et que ça soit faisable derrière. Donc, on est quand même sur à la fois une gestion individuelle et collective d'un besoin, d'une attente, et en même temps la gestion derrière qui est comptable de moyens que l'on doit mettre en œuvre. Donc ça, c'est une question qui je me pose.
Qui est vraiment, pour le coup, une question de pilote. C'est-à-dire, c'est la question que tu as posée aussi. C'est-à-dire quand Emmanuel a dit, mais nous, par exemple, il y a un deuil qu'on a fait, c'est le deuil de tous pareils. C'est-à-dire qu'à un moment donné, confronté à cette situation en disant « j'ai N centaines d'enseignants, il faut que je leur apporte la même chose, et il faut qu'ils aient leurs heures d'animation pédagogique pour tous, et il faut que je fasse des dispositifs pour tous, et alors j'ai des usines à gaz, des tableaux de formation, où c'est l'enfer pour l'équipe de CIRCO, conseiller pédagogique, IEN, maître surnuméraire, etc. » Et à un moment donné, dans les dilemmes qu'on va affronter les concepteurs de ces ingénieries de formation, de ces accompagnements, et là, jusqu'où ça va ? C'est-à-dire que en quoi l'IPR, la DAFOP, le rectorat, le centre de formation, tout ça constitue aussi une part de la réponse potentielle en matière d'ingénierie, va se poser les questions de dire, à un moment donné, qu'est-ce que j'accepte de dire en disant, cette action, on va la faire. Alors toi, tu as dit une manière de répondre sur la base du volontariat. Ou alors on va dire, cette année on fait cette action imposée à cette école ici, mais rien avec cette école là. Au nom du fait que ce qui est très important, c'est ce que tu as dit, c'est de toute façon tout ce qu'on fera sans accompagnement dans la durée sera vraisemblablement quelque chose qui ne servira à rien. Et donc moi j'ai une manière de raconter ça de manière personnelle. C'est que dans l'accompagnement et le conseil pédagogique, si on n'est pas en situation de travailler dans ces cinq directions, eh bien, il y a quelque chose qui va nous manquer. Parce que si on n'est pas capable, et je mets bien accompagner dans la durée comme étant le plus problématique, parce qu'il a raison d'insister sur ça ne sert à rien de se dire qu'est-ce qu'on fera quand on aura les moyens. Parce qu'on en aura, de toute façon, on n'aura jamais les moyens dont on a besoin. Donc la question, c'est bien qu'est-ce qu'on fait avec les moyens qu'on a ? Ce qui n'empêche pas d'aller réclamer dans des cercles adaptés des moyens supplémentaires. Mais bon, si on veut penser le travail des pilotes, des acteurs, des formateurs, la question de l'accompagnement, elle est absolument complexe à gérer. Mais par contre, vous avez bien vu là, comment dans ce modèle, les questions de comment je vais chercher le réel ? je vais chercher le réel parce qu'en formation, on doit parler du réel. Et si on ne parle pas du réel, les gens viennent en disant « t'es gentil, mais tes trucs, viens les faire à notre place ». Mais il va falloir mettre des mots sur les choses. Si on en reste au réel, si on en reste à ce qui a été dit tout à l'heure, au mot du commun, on ne peut pas parler du métier, on ne peut pas parler médecine, mécanique, physique, etc. avec les mots de l'ordinaire. Il ne faut pas rester dans le code restreint, il faut monter dans le code élaboré. Il faut aller chercher les théories. Il faut aller chercher aussi ce qu'on nous demande de faire, que ce soit pour les métiers, que ce soit pour l'enseignement, les programmes, etc. Si on construit des formations où on ne va pas chercher ce qu'on nous demande de faire, on va toujours croire qu'on nous demande de faire autre chose que ce que finalement les textes nous autorisent à faire. Et c'est très important de connaître le prescrit pour ne pas en rester aux idées préconçues sur le prescrit. Est-ce que les programmes de 2008 nous permettent, oui ou non, de faire quelque chose par rapport à ça? Est-ce que la loi machin nous permet de... Allons regarder de près, mais aussi, pour finir, osons travailler avec des outils, avec des recettes, avec des propositions, et ça on l'a déjà décliné, comme étant des petites transformations qu'on va autoriser, des petits pas de côté, qui vont nous permettre de pouvoir faire l'expérience de transformation. Et dans l'expérience que nous donne Ludovic, c'est pas tant... Il n'a pas acheté une cape de Superman hein, dans son stage, mais il a un petit pas de côté en disant « Mais bon sang, c'est bien sûr, je mets des mots qui me permettent d'être un peu plus précis dans mon habitation, dans ma manière d'habiter le socioconstructivisme. » J'avais des idées sur ce qu'était le socioconstructivisme, mais là, alors après on peut toujours discuter si le socioconstructivisme c'est bien, c'est une discussion qu'il faut avoir. Mais en tout cas, le fait que dans sa formation, il ait eu des petits bouts d'outils qui lui dit « Ah oui, tiens, ça je vais l'essayer comme ça, et je vais faire l'expérience de la réussite », alors ça va changer quelque chose. Voilà, bon ça c'est, bon, encore une fois, hein, c'est une organisation qui ne vaut que parce qu'elle nous permet d'en penser. Mais souvent, on voit bien que c'est parce que on n'arrive pas à être sur ces dimensions-là, parce que c'est compliqué, qu'on n'ose pas construire des formations à partir de vraies difficultés professionnelles. Et pour moi, quand je mets conseil pédagogique ici, c'est... voilà, tout ce qui est de l'ordre du pilotage, du travailler ensemble, du travail collectif, etc., etc. À condition d'affronter ce qui a été dit hein, par plusieurs, c'est-à-dire la question du pouvoir aussi. C'est-à-dire que si c'est compliqué, c'est parce que nos institutions, elles promènent du pouvoir. Et que les uns et les autres, on incarne tous du pouvoir.
Je reviens sur la question de l'appui des formateurs. J'ai bien entendu que c'était difficile de faire des formations à Vanvelin. Moi-même, je suis quelqu'un d'assez insupportable quand on m'impose une formation et qu'elle tombe complètement à côté de la plaque. Je l'ai vécu il n'y a pas si longtemps que ça. Je me dis que pour les formateurs, que ce soit à Vanvelin ou ailleurs, il y a quand même quelque chose qui existe en REP et qui, dans l'éducation prioritaire, et qui n'est pas assez utilisé, c'est de passer par le coordonnateur. C'est-à-dire quelqu'un qui a déjà un pied dedans et qui, justement, permet d'éviter cet affrontement. Et qui lui, et puis il peut être un garde-fou aussi quand on prépare la séance. Il dit là, ça, si tu balances ça comme ça, moi, il y a des choses que j'ai entendues ici. Je peux vous dire que si je le dis en salle des profs, demain matin, on va venir secouer un peu le cocotier pour dire la réalité, c'est pas ça. Et donc, je pense que le coordonnateur, ça peut être un garde-fou, ça peut être quelqu'un qui peut être impliqué dans la formation, même si c'est pas vraiment parmi ses premières missions, quoi. Voilà.
Juste pour rebondir sur ce que Stéphane dit à propos des coordonnateurs, on en a peu parlé des missions, du rôle du coordonnateur, et il me semble que la fonction de traduction de la réalité du métier des uns pour les autres, mais aussi des autres pour les uns, ça fait partie des rôles qui me semble fondamental dans ce qu'on fait comme coordonnateur.
Et donc c'est toute la question des métiers intermédiaires hein, qu'il faut réarticuler avec ça, c'est-à-dire que ce qui est difficile aujourd'hui, c'est la dichotomie, la césure entre, d'un côté, il y a le peuple, enfin, les ouvriers qui sont à la production chaque jour face aux élèves, et c'est là que le métier est le plus dur. Et puis, il y a tous les autres qui sont ceux qui, globalement, n'ont pas d'élèves. Et pour un enseignant, le plus difficile quand vous n'avez pas d'élèves, c'est d'abord de lui expliquer que le salaire qu'on vous verse serait pas mieux utilisé à faire une classe de plus. Donc, ça, quand on est enseignant, c'est légitime. Enfin, je veux dire, de dire tous les mecs qui n'ont pas d'élèves, ils seraient mieux à la production. Et donc, du coup, la question de à quoi tu sers, à quoi tu nous sers, toi qui es épargné par le bruit que nous subissons tous les jours, mais ça, si vous ne l'assumez pas quand vous n'avez pas d'élèves, ou quand vous avez des élèves à temps partiel, on voit bien hein, comment tous ces métiers intermédiaires... Bon. Et donc la question de comment les différents métiers intermédiaires sont impactés par l'existence des autres. Alors, on a fait un travail sur les préfets des études. Je vous le signale parce qu'il est sur le site du centre Alain Savary. Et peut-être que vous ne l'avez pas complètement identifié, mais il est quand même intéressant. On a mené un séminaire avec un certain nombre de préfets des études. Et en gros, on a essayé de regarder leur travail ordinaire. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que les préfets des études sont traversés par de nombreux dilemmes, difficultés, enfin, etc. Mais que, surtout, ce qui a été le fruit de notre travail collectif hein, avec des préfets des études, ça a été de comprendre que, en fait, l'existence du préfet des études avait un impact sur tous les autres métiers de l'établissement. Et donc, il demandait à chacun de réorganiser son travail. Il demandait au CPE, au prof principal, à l'adjoint, au chef d'établissement, à l'infirmière, à l'assistante sociale quand il y en a une. Et du coup, c'est toutes ces questions-là qui sont très intéressantes et à mon avis sous-observées ou on ne les étudie pas beaucoup du point de vue de la recherche, sur comment l'émergence de tous ces nouveaux métiers, ça permet de rompre les catégories entre il y a les exécutants et puis il y a ceux qui pensent quoi. Et beaucoup des préfets des études ou des personnes qui accèdent à des fonctions où ils sont partiellement à d'autres tâches que des tâches d'enseignement, nous disent à chaque fois que je fais ça, en fait, je change ma position, je change mon regard. Du coup, je développe d'autres compétences. Je perds pas de vue mon histoire d'enseignant, mais j'acquiers d'autres manières de regarder l'institution. Et sans doute, on parlait avec quelqu'un de la différence de normes professionnelles entre un CPE et un professeur. Eh bien, comprendre que ces différentes normes professionnelles, elles sont pas juste en opposition, mais que c'est des façons différentes de regarder la réalité. Je crois que tous ces nouveaux métiers intermédiaires sont des richesses, vraiment, mais des richesses pour l'instant potentielles. Parce que la question de à quoi ça sert un cours d'eau, à quoi ça sert un référent, à quoi ça sert un maître surnuméraire, je veux dire, il n'y a pas de définition en soi. Pour l'instant, c'est pas stabilisé, quoi.
Oui, moi je voudrais dire que le modèle de conseil pédagogique là qui nous a été présenté, qui est très extensif, très ambitieux, il pose le problème de l'articulation, de la relation avec la direction des établissements. Et à mon avis, c'est le grand absent de ce stage. Hein. On ne peut pas sérieusement, effectivement, imaginer que des transformations profondes en éducation prioritaire se passe uniquement à l'initiative d'un petit groupe d'enseignants, ou même de l'ensemble des enseignants, ou même avec l'appui de formateurs, hein, s'ils ne sont pas portés par les directions.
Je veux qu'on en parle demain.
Alors, non, on n'en parlera pas vraiment demain. Je veux dire, pas de cette manière-là, parce que c'est pas un principal de collège qui va s'exprimer demain, ni un proviseur de lycée. Hein, c'est autre chose. Bon.
On va parler de collaboration intermédiaire entre des pilotes sur un.
Oui, mais c'est pas exactement ça. Ce que je veux dire, c'est que un principal de collège qui arrive dans un collège en ARS ou en RAR, il est fort possible, dans beaucoup de cas, je l'ai vu, que sa première préoccupation soit absolument pas transformer les pratiques pédagogiques ou même d'essayer d'améliorer les résultats des élèves. Dans beaucoup de cas, sa première préoccupation, et ça va prendre l'essentiel de son temps et de l'énergie, c'est de travailler avec l'un ou les CPE pour apaiser la vie scolaire. Parce que c'est le préalable à tout le reste. Et ça peut prendre, effectivement, dans les cas les plus difficiles, des années. avant qu'on puisse faire quoi que ce soit sur le terrain pédagogique. Ça, bon, et il n'y a pas que la vie scolaire. Je veux dire, il y a les relations avec l'environnement, il y a effectivement les relations avec les parents, il y a la gestion administrative et financière, il y a les injonctions effectivement des niveaux supérieurs, etc.
Le rôle des chefs d'établissement est absolument important et que d'habitude dans nos formations on a plus de chefs d'établissement qu'on en a là aujourd'hui et c'est un petit peu le hasard. Et l'année dernière dans le stage on avait des chefs d'établissement qui ont témoigné, donc tout à fait d'accord avec toi sur la question de l'importance cruciale des chefs d'établissement. Mais par contre sur la question des priorités de chefs d'établissement, alors d'accord avec toi pour dire qu'ils sont en injonction multiple et qu'on leur demande tout et son contraire et que eux aussi ils ont mal aux adducteurs. Mais par contre, est-ce que c'est d'abord la pacification de la vie scolaire qui va permettre de pouvoir travailler dans l'établissement? C'est la même question que Romain, avec est-ce que je vais d'abord avoir le calme pour pouvoir commencer à bosser, ou est-ce que je vais regarder en détail dans l'établissement ce qui se passe du point de vue alors de telle ou telle chose qui font que ça génère aussi à l'interne de la violence? Et donc ces deux questions-là, à mon avis, elles sont, il n'y en a pas une qui est préalable par rapport à l'autre.
Non, mais tu as raison, c'est-à-dire que c'est pas forcément la meilleure réponse, ou c'est pas forcément la meilleure stratégie. Mais ce que je dis, c'est que très souvent, ils ont l'impression de ne pas avoir de choix.
Hein ? Ça c'est sûr, parce que ils ont pas. Là où je suis d'accord, c'est que très souvent, ils n'ont pas de compétences à comprendre en quoi il y a un rapport entre les difficultés d'apprentissage des élèves et la violence qui s'exprime dans la cité. Et donc, là où c'est très compliqué, c'est que les chefs d'établissement, on leur demande tout et son contraire. C'est-à-dire qu'on leur demande à la fois d'être conformes et d'être créatifs, et on leur demande en même temps de faire autorité dans l'établissement et d'être des leaders charismatiques. Et donc ça, c'est assez bien documenté maintenant, Lise de Mailly ou d'autres gens, sur le fait que là encore, l'accompagnement des pilotes, des chefs d'établissement, etc., quand on regarde le temps qu'on passe dans un rectorat à faire du dialogue individuel avec des chefs d'établissement sur leur mutation, ça doit manger l'énergie des DAZEN pendant à peu près 2 mois avant Noël. Si on passait le quart de ce temps-là à leur organiser des formations sur le lien entre la violence scolaire et les contenus pédagogiques dans les établissements, ça les aiderait sûrement plus que de passer beaucoup de temps à savoir si on prend un établissement de niveau 2 ou 3 ou 4. Quoi.
Sans négliger aussi le rapport de pression de l'équipe vie scolaire d'un côté et de l'équipe enseignante de l'autre, l'une exigeant d'abord de pacifier l'autre avant de se préoccuper de la pédagogie. C'est aussi quand même une réalité de terrain quand il y a un nouveau chef d'établissement qui arrive, en disant quand on nous aura pacifié la vie scolaire, on pourra nous modifier nos pratiques. Et comme il y a 40 personnes d'un côté et 2 de l'autre, au mieux, voilà.
Absolument. Et c'est là où je reprends mon exemple des préfets des études, parce qu'il va tout à fait dans ton sens. On avait essayé d'imaginer les différentes tâches des préfets des études, et on voit bien comment il y a toute une partie autour de comment on travaille en tant que préfet des études avec l'équipe de direction. Est-ce qu'on fait partie de l'équipe de direction? Est-ce qu'on est un copilote ou pas? Comment on s'articule avec les différents métiers? Comment on travaille avec les professionnels? Comment on travaille avec les élèves? Comment on travaille avec le premier degré? Comment on travaille avec le lycée, voire avec l'extérieur? Et vous pourrez regarder en détail ce qu'il y a dans cette chose-là. Mais on voit bien qu'effectivement, les problèmes à l'intérieur de l'établissement, globalement, c'est des problèmes de collaboration intermédiaire. Hein. On a toujours tendance à dire ici, travailler, c'est travailler avec les autres métiers et comprendre pourquoi la norme professionnelle qui est la leur n'est pas la même que la nôtre. Et ça, c'est très compliqué. Un chef d'établissement qui demande une formation sur l'évaluation, c'est malheureusement souvent un chef d'établissement qui dit « Trouvez-moi un formateur qui me dise qui va remplir quelle page du livret de compétences. Le reste, vous êtes gentil, mais je n'ai pas le temps de m'en occuper. » Mais quand il dit ça, il faut entendre en quoi ça peut être une préoccupation légitime. Ce n'est pas qu'une préoccupation qu'on va qualifier avec la distance comme je